Merci d'être à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 22h à Guadalajara, 6h ici à Paris. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Nemo, bonjour à tous. La RDC finit par plier. Défaite 1-0 contre la Colombie à la Coupe du Monde de football. Il faudra impérativement gagner samedi contre l'Ouzbékistan si les Léopards veulent se qualifier pour les 16e. Les États-Unis et l'Iran continuent de se contredire sur le détroit d'Ormuz et le nucléaire. Les deux parties se félicitaient pourtant en début de semaine de bases solides pour arriver à un accord afin de mettre fin au conflit. La carte de l'Europe en rouge, les alertes canicules se multiplient en Italie, en Espagne, en Allemagne ou encore en France. La France qui a connu hier sa journée la plus chaude jamais enregistrée. Au Pérou, Keiko Fujimori se rapproche de la présidence. L'autorité électorale affirme ce matin qu'elle apparaît comme la gagnante du scrutin. Presque tous les procès-verbaux ont été dépouillés. Et puis un super calculateur chinois surpasse le champion du monde américain. Ce n'est pas anodin, c'est un symbole de la guerre technologique qui oppose les deux grandes puissances. On en parle en fin de journal. Les Léopards ont fini par craquer. La RDC s'incline face à la Colombie à la Coupe du Monde de football. Le match vient de se terminer. Vous l'avez suivi pour nous, Victor Misistrano, en direct de Guadalajara, au Mexique. Victor, les Congolais ont donc fini par plier.
Oui, c'est cruel pour la RDC. Après avoir encore une fois tellement résisté, mais à la 76e minute, le verrou a fini par céder. Explosion de joie dans le stade rempli de supporters colombiens. Le ballon dévié du latéral Daniel Munoz est venu tromper avec énormément de réussite Lionel Messi, le gardien des Léopards, jusque-là dans un très très grand soir, alors que son équipe dominée a vécu 20 premières minutes en apnée. Mais le portier du Havre a enchaîné les parades. Il a encaissé un but dès la 6e, mais celui-ci a été refusé pour hors-jeu. Petit à petit, la RDC est rentrée dans son match avec de plus en plus de solidité, à l'image du trio défensif Mbemba, Twanzebe, Capuadi, avec beaucoup de courage, encore de solidarité, mais elle s'est montrée trop inoffensive. Cette équipe a attendu la fin du match pour cadrer un tir. Une belle frappe de Natanael, beaucoup repoussée par le gardien, puis une tête de Chancel Mbemba captée trop tard. Défaite 1-0 donc, seul contre tous, sous les sifflets, dans une ambiance très hostile. Les Léopards n'ont pas à rougir de leur performance, même s'ils peuvent avoir quelques regrets, Marion. Ils joueront leur avenir à Atlanta samedi contre l'Ouzbékistan, déjà éliminé, en vue d'une qualification en 16e de finale.
Et alors que la Colombie, elle, est donc bien qualifiée pour ses 16e, merci Victor Misistrano en direct de Guadalajara au Mexique pour RFI. Dans les autres résultats du jour, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes africaines, le Ghana fait match nul contre l'Angleterre 0-0. Les deux pays sont à égalité en tête de leur groupe. La Croatie, elle, a éliminé le Panama après sa victoire 1-0. Le Portugal, lui, écrase l'Ouzbékistan. Score final 5-0. Tout le calendrier de cette Coupe du Monde est à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Un début d'apaisement dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis. L'évacuation de 11 000 marins encore bloqués dans le détroit d'Ormuz a commencé. Pourtant, les deux parties ont encore des divergences sur ce dossier. Pour Washington, le trafic redeviendra libre sur ce passage stratégique, crucial pour le commerce mondial. Mais Téhéran ne l'entend pas ainsi et veut instaurer à terme des frais pour les navires qui navigueront dans le détroit. L'Iran est allé chercher du soutien du côté du sultanat d'Oman. Une rencontre avait lieu hier à Mascate, Guilhem Deltey.
Un engagement à maintenir un passage sécurisé. Ce sont les mots choisis par Oman et l'Iran pour décrire leur position concernant l'avenir de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais leur communiqué commun ne mentionne pas un passage libre, simplement un respect du droit international. Les deux pays affirment ainsi rester dans une légalité, mais sans prendre d'engagement sur l'absence à terme de frais de passage. Oman et l'Iran annoncent même mettre en place un groupe de travail conjoint. Celui-ci est censé élaborer une position commune des deux pays sur la gestion du détroit d'Ormuz, la façon dont cette voie de navigation sera gérée par les deux pays, les services qui seront fournis et les coûts qui y seront associés. Ces derniers mois, Oman n'a pas écarté l'idée iranienne d'instaurer des frais de passage. Une idée en revanche vivement dénoncée par les autres monarchies pétrolières de la région, mais Mascate et Téhéran se défendent de mener une politique du fait accompli. Les deux capitales insistent sur leur souveraineté sur le détroit d'Ormuz, mais annoncent l'ouverture d'un dialogue avec les pays riverains du Golfe, des pays pays attaqués par l'Iran ces derniers mois, mais qui sont des partenaires de premier plan pour Oman.
Et alors que l'Iran et les États-Unis se sont donné 60 jours pour trouver un accord global, les deux pays continuent de se contredire aussi sur le dossier du nucléaire. Téhéran n'a pas l'intention de laisser l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, inspecter ses sites nucléaires clés bombardés par Israël et les États-Unis. Au contraire, pour Donald Trump, ces inspections ont été pleinement et totalement acceptées par l'Iran. L'Ukraine poursuit ses frappes sur les infrastructures de la Crimée annexée. La plus grande ville de la région, Sébastopol, est privée d'électricité ce matin, selon le gouverneur de la ville, qui a été nommé par les autorités russes d'occupation. La Russie, elle continue de mener des bombardements sur l'Ukraine. Un mort a été signalé ce matin dans le nord-est, à Kharkiv. Le bilan des attaques d'hier est passé à 14 morts dans plusieurs villes de l'est et du nord du pays. Il sera question de l'Ukraine ce soir. À Berlin, le chancelier Friedrich Merz reçoit les dirigeants français, italien, britannique et polonais pour discuter de l'aide à Kiev. Les records de chaleur se multiplient en Europe. En France, la journée d'hier a été la plus chaude jamais enregistrée avec 29,8 degrés en moyenne. La canicule s'installe. Aucune amélioration n'est prévue aujourd'hui. 58 départements sont placés en vigilance rouge. C'est le cas à Paris où les citadins cherchent du frais où ils le peuvent. Comme au cinéma, la mairie du 10e arrondissement propose des places gratuites aux jeunes et aux seniors dans des cinémas indépendants. Un répit dont profitent avec plaisir ces Parisiens rencontrés par Alice Froussard.
On a entendu dire qu'il y avait une offre du coup pour la
Kiaoukou. Ouais, moins de 25 ans.
C'est oui. Ça.
Tu peux me remplir ça, les deux.
Ok.
Pour le verre,
c'est oui. Ça.
Au Louxor, un cinéma du 10e arrondissement de Paris, pendant la canicule, les séances entre 13h et 16h sont gratuites pour les moins de 25 ans, les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite. Devant la caisse, quelques jeunes font la queue.
Je suis étudiant en cinéma. Et ben là, je viens avec une amie me ressourcer et me cultiver un peu. Mais c'est vrai que ça fait du bien, c'est climatisé là en plus.
Cinéclim. C'est justement le nom de l'initiative mise en place par la mairie. Deux autres cinémas y participent, l'Archipel et le Brady, dans le même arrondissement. C'est sur les réseaux sociaux que Lola en a entendu parler.
Puis après, je suis allée sur le site de la mairie pour me renseigner. Et je suis très contente de l'initiative parce que chez moi, il fait 40 degrés actuellement. Donc il fallait vraiment que je sorte pour prendre un petit peu l'air. Et puis au moins, en plus, j'adore ce cinéma, donc je suis contente.
Stéphanie est l'adjointe de direction du cinéma. Elle explique qu'avec le retour des beaux jours, la fréquentation avait un peu baissé ces dernières semaines. Mais qu'avec la chaleur et l'initiative, le public est largement revenu et pas que des habitués.
Pour les quelques appels téléphoniques que j'ai eus, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'étaient pas habitués à fréquenter la salle et j'espère que ça aura la vertu de leur rappeler à quel point c'est bien de voir un film au cinéma. Moi, j'ai été voir Le Vertige hier soir, que j'avais pas vu, et c'est vrai que c'est un peu rigolo de voir ce film sur les bugs du réel à un moment où le monde est un peu fou aussi chez nous.
Et le programme est mis en place jusqu'à vendredi.
Et mieux vaut trouver refuge dans les cinémas car certains monuments, eux, ne sont pas adaptés. Ils vont même fermer plus tôt. C'est le cas de la Tour Eiffel et du Louvre, mais aussi du Mont-Saint-Michel en Normandie ou encore de l'Atomium dans la capitale belge. En Grèce, pas de restrictions annoncées, mais désormais, chaque été, des monuments sont eux aussi fermés, comme l'Acropole, à cause des vagues de chaleur. Et alors que la saison touristique vient de commencer, les salariés du secteur sont en grève aujourd'hui. Ils réclament de meilleurs salaires, plus de jours de repos et une revalorisation de leur assurance chômage. Ils espèrent obtenir gain de cause car ils savent que ce secteur souffre d'une pénurie de main-d'œuvre. À Athènes, le reportage d'Emmanuel Stels.
Rue Adriano, dans le centre d'Athènes. Sur le coup de midi, les touristes s'attablent aux terrasses, disposées en enfilade en face de l'agora. La journée s'annonce interminable pour Katia, qui dirige l'équipe de serveurs d'un bar-restaurant.
Je travaille 16 heures par jour, c'est épuisant, surtout à cause du temps. Ici, dans le centre d'Athènes, il fait 36 degrés en juillet-août. Le climat est vraiment désagréable.
Ce mercredi, les travailleurs de l'hôtellerie et du tourisme font grève pendant 24 heures pour alerter sur leurs conditions de travail pénibles. Chaque été, nous divorçons de nos familles, explique crûment Fotis Skaltsas, employé d'un grand hôtel sur l'île de Rhodes et secrétaire général du syndicat des travailleurs touristiques. Il évoque un rythme estival trépidant et puis un grand vide en octobre quand il se retrouve sans travail et avec seulement 3 mois d'assurance chômage. Les salaires qui stagnent autour de 1 000 euros n'attirent pas beaucoup de candidats. Cette saison, il manque 80 000 employés pour faire tourner l'industrie du tourisme en Grèce. Emmanuel Stelsaten, RFI.
Au Pérou, Keiko Fujimori se rapproche de la présidence. Selon l'autorité électorale, la candidate de droite apparaît comme la gagnante. Presque tous les procès-verbaux ont été dépouillés et son rival de gauche, Roberto Sanchez, ne devrait pas pouvoir rattraper son retard. Aux États-Unis, une décision de la Cour suprême fait polémique. La plus haute juridiction du pays a débouté un ancien détenu. Il avait porté plainte contre ses gardiens de prison qui lui avaient rasé les cheveux. Or, cet homme, un Rastafari, portait des dreadlocks en accord avec ses opinions religieuses. Cette décision pourrait donc, Lubna Anaki, avoir des conséquences sur les droits religieux en prison.
La décision a immédiatement été dénoncée par les organisations de défense des droits civiques. La Cour suprême rend plus difficile de faire rendre des comptes aux responsables pénitentiaires lorsqu'ils violent les droits des personnes sous leur garde, déplore ainsi l'ACLU. La plus haute cour américaine avait été saisie par Damon Lander. Par conviction religieuse, ce rasta s'était laissé pousser les cheveux durant près de 20 ans. Mais lorsqu'il se retrouve à purger une peine de 5 mois dans une prison de Louisiane, ses gardes le menottent à une chaise et lui rasent la tête en dépit d'une décision de justice autorisant les détenus rastas Rastafariens a gardé leur dreadlock. Hier, les 6 juges ultra-conservateurs de la Cour suprême ont estimé que la loi sur la protection des libertés religieuses ne permettait pas à Damon Lander de poursuivre les responsables de la prison pour des dommages et intérêts. Une décision qui tranche avec la tendance de ces dernières années. La Cour s'est montrée favorable à l'extension de la place de la religion dans l'espace public et a souvent donné raison aux plaignants chrétiens dans différentes affaires. Lubna Anaki, New York, RFI.
C'est une première en près de 10 ans. Le plus puissant supercalculateur au monde est chinois. Le superordinateur LineShine est arrivé en tête en rapidité de calcul dans le classement mondial qui lui est dédié. Il passe donc devant les États-Unis. Et maîtriser cet outil, ce n'est pas anecdotique. Il y a tout un enjeu stratégique et géopolitique, comme l'explique Stéphane Rekena. Il est directeur technique du Grand Équipement National de Calcul Intensif.
Avoir de la puissance de calcul, ça permet de faire de la simulation numérique, ça permet de faire de l'entraînement de modèles en IA, ça permet de faire plein de choses. Et donc celui qui a la puissance a les modèles et a l'avantage compétitif. Ça va avoir un électrochoc aux États-Unis, mais ça a aussi un électrochoc en Europe, hein, puisque en fait cette machine, elle montre qu'avec des technologies 100% chinoises, on arrive à faire aussi bien que des machines américaines. Il faut savoir que depuis quelques années déjà, depuis même l'administration Obama, il y a des interdictions d'export de technologies américaines vers la Chine. Pourquoi ? Parce que ces supercalculateurs sont maintenant plutôt le nouvel Apollo, on va dire, entre la Chine et les États-Unis. Et donc, c'est un vaisseau amiral assez important pour la stratégie chinoise.
Les Stéphane Rekena, propos recueillis par Antonin Barre, l'RFI 6h13 à Paris. On reste ensemble encore pour une vingtaine de minutes.
Marion Cazanove.
Avec d'abord le reportage international en Écosse, ce matin pionnière dans la gratuité des protections périodiques. En Chine, un marché au mariage où les parents jouent les entremetteurs. Si la pratique paraît traditionnelle, elle répond aussi à des enjeux contemporains. On parlera ensuite cinéma avec la sortie du film L'étrangère de Gaïa Gigi. Elle y raconte son histoire, son départ de la Syrie d'Assad en 2010, sa reconstruction en France. Le rôle est joué par l'actrice iranienne Zahra Mir. Elle est notre invitée culture. Assure également le conseil santé, la musique pour refermer cette tranche d'actualité, ce sera avant le retour de l'actualité africaine. En Écosse, les serviettes hygiéniques sont proposées gratuitement un peu partout, dans les toilettes des collèges, lycées, universités, aussi dans les piscines, les musées, les pubs. L'Écosse fait figure de pionnière. Elle a été la première en 2022 à offrir des protections périodiques. Au départ, la mesure n'était destinée qu'aux plus pauvres, mais elle a fini par être globale. Reportage à Aberdeen de Thomas Arms.
Désormais, c'est entré dans la vie courante en Écosse. Pour ces étudiantes rencontrées devant l'université d'Aberdeen, c'est normal d'avoir accès aux produits d'hygiène féminine quand on en a besoin. C'est comme du savon dans les toilettes.
C'est super utile et très rassurant quand tu dois sortir là où il y a du monde. Des fois, tu es dehors, en classe ou dans ton labo, et là, soudain, j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas emporté avec moi. Alors que ce soit accessible, ça aide vraiment.
On dit en général aux femmes de bien anticiper, de toujours avoir tout le nécessaire sur soi au cas où on en aurait besoin. C'est une manière de libérer sa charge mentale.
Les produits hygiéniques gratuits, on en parle en Écosse depuis 2017. Le gouvernement lance alors un pilote pour leur distribution. Objectif, lutter contre la précarité, l'isolement et l'embarras des femmes de milieux modestes. Cette année-là, il y avait encore en Grande-Bretagne des jeunes filles qui mettaient des chaussettes dans leurs culottes pour éviter que les saignements ne se voient. Ce pilote a eu lieu à Aberdeen et a été mené par l'organisation CFINE, l'initiative alimentaire communautaire du nord-est de l'Écosse, qui est déjà en contact des milieux les plus précarisés. Non loin du port se trouve le centre de distribution alimentaire de CFINE. Dans l'entrée, un grand présentoir. On y trouve normalement des tampons, des serviettes hygiéniques et parfois des...
Yeah. I know it's be the death of me. Yeah, I know. At least we've both been numb. She'll always, always get the best of me. The worst is yet to come. This I know. Yeah, she told me, don't worry about it. Yeah, she told me, don't worry no more, no more. We both know, can't go on without it, can't go on. Never be alone.
In the mirror, do you like? ton cousin Marvin Berry. Il y a quelque temps, tu m'as dit que tu cherchais un son nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça!
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars!
râpé ou des flots carrés. J'ai beau parler, mais personne m'entend. Même si la vie fait que mes yeux sont encore humides, car mes idées sont incorruptibles. Pourtant c'est trop sacré, mais j'ai beau parler, même au quartier, mais tout le monde se rend
branle. Entre nous, la communication est plébiscitée. Pas quand elle a comme unique action de faire sa publicité. Me demande pas d'aimer ma nation ou d'exiler. Sur le son, je suis les émanations de mes idées. Je vois la dégradation des relations se préciser. Des plus sages aux plus dissipés, ça sert à rien de faire le dur ou la tête de mule. Je te garantis pas que les grandes gueules ont les plus grosses paires de burnes. Pourtant j'essaye d'avoir le verbe juste. J'ai pas la mauvaise intention de faire le juge. Devant une taille de JB on se dit je t'aime, je te jure. Alors qu'au réveil c'est qu'un complet devant un verre de jus. Comme si on avait besoin de teaser pour se parler ou ne pas se perdre de vue. Bien sûr que les discussions ne doivent pas être une terre de lutte. Quand en surface les conversations ne sont guère tenues.
À communiquer comme on communique. Je me dis que les hommes déconnent, je mise en communique. Ce soit des mots râpés ou des flots carrés. J'ai beau parler mais personne m'entend. Même si la vie fait que mes yeux sont encore humides, car mes idées sont incorruptibles. Pourtant c'est trop sacré, mais j'ai beau parler, même au quartier, mais tout le monde s'en rend compte. La vie passe, et plus je suis incapable de dire combien ma confiance a pris de balles. On veut des fois se dire des choses, mais on n'y arrive pas. C'est pour ça que quand on écrit, on fait en sorte que la rime parle. Alors le bouche à oreille se propage comme la grippe. Tout esprit de panique, la peur de prendre la parole a pris le pas. Comme mon cerveau broie du noir, mes mots sont grippales. J'écoute pas les bruits qui courent, ça me prend la tête. Plus que ça me remplit le crâne, j'en ai ras le bol de tout. Crois-moi, je préfère être seul devant mon bol de sous. Quand on se côtoie par intérêt pour remplir sa cagnotte de sous, je me dis que le monde sait faire la parole sur des dialogues de sourds. Des fois, les gestes ou les yeux en disent plus que les mots. C'est souvent quand ils discutent que se disputent les nôtres. On cherche peut-être le chemin qui disculpe les fautes. Dans cette mixture de bien et mal, seul Dieu distribue les rôles. À communiquer comme on communique, je me dis que les hommes déconnent, je mise en communique. Ce soit des mots râpés ou des flots carrés. J'ai beau parler, mais personne m'entend. Même si la vie fait que mes yeux sont encore humides, car mes idées sont incorruptibles. Pourtant c'est trop sacré, mais j'ai beau parler, même au quartier, mais tout le monde se rend à essayer. Pourtant certains refusent d'entendre,
et pour eux, ça dépasse l'entendement.
Ils ont trouvé des refuges d'antan,
comme tenter de rester dans leur bulle d'enfant.
Ou ceux qui ont trop tendance à ne pas s'écouter les conseils qui le lendemain t'en demandent.
Parce que le temps manque, les gens se mentent à eux-mêmes,
mais n'avance pas.